Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Nous allons ouvrir une belle page de notre évangile et nous allons lire dans celui de Matthieu quelques petits versets. Et nous allons donc prendre en considération les attitudes d'hier, les attitudes d'aujourd'hui, peut-être nos attitudes devant, face à l'affaire que l'on nommera l'affaire Jésus. Voilà donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, je prends par exemple le verset 17. Alors il s'agit naturellement là du tribunal. « Comme ils étaient assemblés, Pilate dit à la foule, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ. Et puis je vais passer quelques lignes et nous arrivons à la conclusion de ce paragraphe, au verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Il y a en quelque sorte un message qui nous est laissé bien avant cette scène de la Passion de Christ, un commentaire qui nous est rappelé dans l'évangile de Luc au chapitre 2 au verset 34, alors que Jésus est un nouveau-né, et qu'il y a là une prophétie qui lui est destinée. Il nous est dit « Voici cet enfant est destiné à amener la chute » et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contestation, la contradiction. Nous voyons que c'est bien ce qui va se dérouler devant nos yeux, dans ce texte que nous avons choisi dans Matthieu, et nous savons tout au long de sa vie, alors Jésus a eu des amis, mais il a eu beaucoup d'ennemis, de contradicteurs, de gens qui voulaient tout simplement l'éliminer, et il porte en quelque sorte un nom assez sarcastique mais évident. On l'appellera tout simplement la pierre angulaire ou la pierre d'achoppement, c'est-à-dire qu'il est venu pour sauver les hommes, mais tous ceux et celles qui se sont finalement mis en opposition volontaire par incrédulité, par toutes sortes de mauvais sentiments, ont trouvé en Jésus une pierre d'achoppement. Alors, si nous revenons à notre contexte de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire l'épisode de la passion de Jésus au tribunal, une question embarrassante lui est posée par Pilate. Ce procurateur romain lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors Pilate, avait probablement un mobile politique, où tout simplement les détracteurs de Jésus étaient venus devant Pilate parce qu'il avait l'autorité de vie et de mort, avec véritablement, non pas des questions religieuses, mais des questions politiques, c'est-à-dire faire passer Jésus pour s'étant proclamé le roi des Juifs, naturellement en opposition à l'autorité de César, et on comprend dès lors qu'un tel argument suffisait à le faire condamner. C'est-à-dire que se mettre à la place de l'empereur. Le texte nous le rapporte, ils se mirent à l'accuser disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer l'impôt à César et se disant lui-même « Christ roi ». Ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple. » Ça, c'est le texte qui nous est rapporté également en parallèle dans l'évangile de Luc au chapitre 23. La révolte, incitation au trouble, sédition et faire passer Jésus pour un homme extrêmement dangereux. Apportant peut-être des bouleversements et la révolution. Je vais lire maintenant à travers ces paragraphes que nous avons devant les yeux, deux versets. Au verset 11, il est dit ceci, « Jésus comparut devant le gouverneur Le gouverneur l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors il y a quelque chose de très intéressant parce que nous voyons que à la question qui est posée à Jésus, Jésus va répondre par le silence. Et pourquoi ? Jésus se tait, car ses accusateurs n'écoutent plus que leur haine et du coup se rendent indignes d'entendre la vérité. Et c'est intéressant d'ajouter ceci, c'est qu'il y a des silences qui en disent long et qui parlent peut-être beaucoup plus que tous les discours et toutes les explications que l'on peut donner. Jésus a beaucoup parlé, on le remarque, mais il a rarement écrit, ou on a écrit pour lui. Ces silences ont intrigué et embarrassé ses questionneurs. À l'interrogatoire de Pilate, par exemple, eh bien, Jésus dira ce témoignage rendu aux hommes pour tous les temps que nous avons dans l'évangile de Jean au chapitre 18 où il est question que Pilate dit à Jésus « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque » Et Jésus dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Alors c'est intéressant de prendre en considération un peu ce dialogue et d'en faire ressortir eh bien là, des grandes vérités pour nous-mêmes et qui peuvent éclairer notre attitude, notre comportement et notre prise de position vis-à-vis de la personne de Jésus. Les silences de Jésus ont été plus parlants que tous les discours. Justification et être explication, renvoyant ses accusateurs curieux, parfois perfides, à leur conscience. En écho à cette affirmation incontestable, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Autre situation intéressante sur les non-réponses de Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, il est parlé d'un épisode intéressant, une sorte de stratégie inimaginable qui fait la part à la justice, à la vérité, qui fait part au pardon, c'est-à-dire qui met en évidence, qui met en priorité l'amour et la grâce au-dessus de toute autre réponse que celle qui est divine et parfaite. Puisqu'on est venu questionner Jésus sur la situation d'une femme adultère et de savoir quoi faire avec elle. « Toi, Jésus, que dis-tu de cette femme ?» Et il est dit à un moment donné, un rare moment où on voit Jésus écrire, il nous est dit au verset 6, donc de Jean chapitre 8, que Jésus écrivait sur la terre. On n'a jamais su finalement ce qu'il a écrit, mais il a gardé le silence, et c'est ça ce qui est important. C'est ainsi, et aussi le silence du maître souverain, qui clôt les spéculations et les accusations de tous les intrigants de la terre. Jésus ne répond rien, eh bien son silence parle plus que les paroles. Il y a les paroles de la croix qui font référence de la sobriété de Jésus à l'instant ultime, quand il dira ceci, difficile à comprendre, mais il s'est dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père !» Et il ajoute « Père, pardonne-leur !» Et dans un autre passage un petit peu plus loin, il est dit « À la demande d'un homme qui, au dernier moment, avant de mourir, va se repentir, Jésus lui répondra « Aujourd'hui, tu seras avec moi. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Nous voyons qu'il y a là, en effet, peu de paroles, mais derrière tout un message. Faire face à toutes les injustices du monde, Jésus donne l'exemple victorieux. Quand il est dit, eh bien là dans le psaume 37 et verset 7, que eh bien c'est le silence, c'est dans le silence que véritablement eh bien nous pouvons trouver la justice. Conclusion de tout cela, eh bien je citerai un proverbe arabe où il est dit ceci, l'arbre du silence porte les fruits de la paix. Revenons maintenant à notre sujet. En tête des accusateurs de Jésus, Eh bien, il y a les principaux sacrificateurs, les prêtres, les anciens, et ce sont toutes, on le remarquera, non pas seulement des gens du peuple, des gens lambda, on pourrait dire, mais tous des notoriétés religieuses. L'homme juge son Dieu, et Dieu ne dit rien, parce que c'est bien cela la situation. Et nous voyons que c'est encore Jésus qui assurera à travers ses mots, il dira, mais ce qui vient du cœur, eh bien, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, donc c'est quelque chose de profond. Et le verset 15 à 16 nous dit ceci, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Alors voilà, ce qui est mis en avant, c'est le choix de la foule. Ça semble tellement très, très démocratique, mais il y a naturellement eh bien, quelque chose qui est aussi extrêmement dangereux pour faire justice. Choisir entre la justice et l'injustice proposée à l'opinion publique, c'est un grand risque. Qui était Barabbas ? Dans Marc chapitre 15, il nous est dit qu'il y avait en prison ce jour-là, ou dans cette période-là, un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis. C'était un chef de bande, un criminel notoire, un brigand renommé pour être un homme sans foi ni loi. Alors Pilate fait cette proposition dans l'espoir que les Juifs n'oseront jamais préférer à Jésus un tel malfaiteur. Et je pense qu'il était sincère à ce moment-là, Pilate. « Lequel voulez-vous, dira-t-il, lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Et les raisons de ce choix, eh bien là, sont dévoilées, puisqu'il nous est dit que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. L'envie, la jalousie, la haine, le préjugé, et ça c'est véritablement le dévoilement de la nature humaine, mobile, qui fausse l'appréciation. Et Jésus de le dire dans le sermon sur la montagne, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. Il y a là un avertissement qui, eh bien, suit. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, il nous est dit que la femme de Pilate lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate était prévenu. Et il était prévenu par une des personnes les plus proches qui soient, c'est-à-dire sa femme, qui avait eu une vision, un songe, en disant « Mais fais attention parce que là, il y a plus que un homme en apparence. Hein, » et ça voulait dire tout un message de prudence et de vigilance. Dieu parle toujours pour arrêter le mal. C'est ce que nous dit le livre de Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas garde. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour Pilate. Il ne va pas prendre garde aux avertissements qui lui sont donnés. Alors, il supplée aux lacunes de notre conscience quand on ne sait pas quoi faire. J'ajoute que Dieu supplée aux lacunes de notre conscience quand nous sommes dans l'hésitation. Il faut apprendre à reconnaître certaines indications spirituelles, être réceptif, d'abord avoir un cœur sincère et puis être vrai. C'est nos sentiments qui vont parler ou c'est la voix de Dieu qui va véritablement s'imposer. D'ailleurs, il est bien dit dans la bouche de la femme de Pilate, « J'ai souffert pour ce juste, donc un innocent. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule à ce moment-là de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Barabbas, c'était un ennemi déclaré des Romains et il le libérait. C'était un acte de folie en quelque sorte, parce que c'était un criminel notoire. Alors, Barabbas libéré, Jésus condamné, parce qu'il était haï des religieux juifs fanatiques. Les juifs religieux préférant encore avoir affaire et à faire une prétendue justice à un criminel, à un homme qui avait du sang sur les mains, et de faire condamner un innocent. Il nous est dit tout simplement que ces anciens et ces notoriétés d'Israël persuadèrent la foule. Alors quelle hypocrisie ! Il n'y a rien de plus dangereux qu'une foule en folie, une foule excitée, surchauffée, manipulée, et elle devient vite incontrôlable. Et c'est pour ça que nous avons cité il y a un instant, je le cite tout à nouveau, lorsque Jésus est à la croix, dans les derniers instants, il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Si la foule ignorait la portée de sa décision, les notables juifs savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, savoir rendre responsable Jésus et le prétendant comme un gêneur à éliminer à tout prix. Imaginez que Jésus ait été plus dangereux que Barnabas. C'est difficile à croire lorsque nous connaissons sa vie et ses œuvres. Pilate, pour la deuxième fois, va parler. Il va dire « Mais lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il a là une insistance et il est des choix qui semblent anodins mais qui sont capitaux quand la décision est arrêtée et irréversible. Dieu insiste pour nous faire entendre raison avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, c'est l'Évangile qui nous le dit, parce que l'Évangile, dans toute la proclamation de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, c'est véritablement les dernières paroles qui nous sont laissées venant du ciel pour nous dire, eh bien, préparez-vous, parce que les temps viennent, parce que la fin approche, et que c'est véritablement, eh bien là, dans notre temps en particulier, l'évangélisation, le message évangélique, où il nous est dit, mais la bonne parole de l'Évangile sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, et après viendra la fin. Et nous savons que les paroles de Pilate sont, en quelque sorte, eh bien, un dernier appel. Mais tout cela nous laisse libres, quoi qu'il en soit, de nous déterminer en conscience. On l'écoute ou on rejette, eh bien là, l'avertissement. Le choix est clairement exprimé. Ils répondirent, ou ils le crièrent plutôt, « Barabbas, Barabbas ». Pilate leur dit, « Mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?»« Que ferais-je de Jésus, moi, personnellement, aujourd'hui, au moment où j'écoute ce message ? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus ? Quelle attitude ? Quel comportement ? Quelles sont mes pensées réelles ? Quelle est ma position vis-à-vis de Jésus ? Quelle partie vais-je prendre ? De quel côté je vais prendre position ? Mon choix personnel ?» Tout ça, ce sont des questions encore d'actualité pour les hommes de notre temps. Alors ils ont répondu, bien qu'il soit crucifié, et ils ont dû crier à plusieurs reprises. La sottise qui est emportée par un souffle de haine et aussi de l'ignorance. Pilate dira ensuite, mais quel mal a-t-il fait ? La justice. Il n'y a rien de plus révoltant que d'être accusé faussement, naturellement. Quel mal a-t-il fait ? Dans le livre des Actes, au chapitre 10 et au verset 38, il y a là toute une série de bienfaits que Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, a finalement distribué parmi les hommes. Il nous est dit qu'il allait, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de telle ou telle force. Mais quel mal a-t-il fait ? On les voit, on voit les actes de Jésus, tout à fait dans ses guérisons. Lorsqu'il ouvre les yeux des aveugles, lorsqu'il fait marcher les paralytiques, lorsqu'il purifie les lépreux. Ses bénédictions divines, quand il bénit les petits-enfants ou qu'il nourrit les foules affamées. Son message de paix, lorsqu'il dira devant le monde entier, encore aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres. Sa puissance, nous pouvons naturellement la souligner. Ses délivrances, on le voit à travers cet homme gadarénien qui est là, lié par toutes sortes de forces occultes. La femme courbée également, qui était là, réduite depuis 18 années dans l'infirmité. Libérateur moral et spirituel, lorsque il traite le problème de l'affranchissement du mal et du péché. Son ministère de pardon, on le voit et on l'a souligné tout à l'heure quand il s'agit du pardon et de la libération de cette femme adultère, alors que les autorités religieuses voulaient qu'elle soit lapidée, c'est-à-dire qu'elle soit mise à mort. Consolation et prodige, on le voit à travers cette manifestation d'amour et de soutien à cette veuve de Nain qui vient de perdre son jeune homme, son fils. On le voit à travers la fille de Jaïrus, on le voit à travers la résurrection de Lazare. Alors la question peut se reposer naturellement, mais quel mal Jésus a-t-il fait ? Jésus a toujours tenu un langage positif et réaliste, celui de la vérité, celui du bien, parler et proclamer le bien, reprend la conscience de ceux qui n'aiment pas le bien. Et c'est bien cela, la raison, et une des raisons parmi tant d'autres. Pourquoi ? Eh bien la foule, surtout les officiels religieux vont dire qu'ils soient crucifiés. Parce que ça ne leur agrée pas du tout de voir, eh bien, en effet Jésus comme étant le juste parfait, parce que ça remet naturellement, eh bien, leur conscience tout simplement devant eux. Les hommes, nous dit l'évangile de Jean, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, et c'en est bien l'illustration. Nous retournons maintenant à la question, mais quel mal lui avons-nous fait ? Parce qu'on parle des hommes d'il y a 2000 ans, mais nous pourrions peut-être justement souligner cette question d'une manière un petit peu plus soutenue. Mais quel mal lui avons-nous fait ? Nous nous détournons de lui, nous l'indifférons dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous vivons comme si il n'existait pas. Jésus se présente souvent dans l'esprit des gens comme sans intérêt. Peut-être le Jésus religieux, le Jésus en statue, le Jésus qui quelque part, eh bien, nous a laissé quelques paroles, mais dont on a du mal à vivre ces paroles. Peut-être une attitude méprisante, blasphématoire, hein, où nous avons, eh bien, honte de lui, sa parole qui est rejetée. Et nous voyons que dans le texte, il nous est dit qu'il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Et nous voyons là tout ce qui est souligné dans le caractère même de l'endurcissement à la vérité. Pilate, pour encore poursuivre, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, le tumulte augmentant, prit de l'eau, se lava les mains et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Cela vous regarde. Voilà la conclusion en quelque sorte. Cela vous regarde. Mais c'est vrai que ça regarde tout le monde, ça regarde chacun. Alors, l'attitude des dignitaires religieux est restée dans la haine. Ils se sont enfermés dans la méchanceté, celle de la foule dans la versatilité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, sans prendre position. L'inconstance, le conformisme, celle de Pilate, ça a été la lâcheté, ses craintes, ses intérêts personnels qui sont en jeu. Je rappelle, l'attitude des religieux de l'époque, ça a été la haine. Celle finalement de la foule, ça a été l'inconstance, ne prenons pas position, restons en honte, et celle, tout simplement, de Pilate, ça a été, eh bien, la lâcheté. Prendre position et s'engager pour Jésus suppose du courage dans l'opposition. En se lavant les mains, Pilate préfère fermer les yeux, on peut le dire de cette manière, et se taire sur ce qu'il sait être vrai. Il ne refuse ni n'accepte. Il est tout simplement dans un positionnement neutre et en renvoyant finalement, eh bien, tout simplement là aux autres. Je suis innocent. Je suis innocent du sang de ce juste. Terrible aveuglement sur lui-même. Je n'ai rien fait. Et cela vous regarde tout simplement. Cela, non pas regarder les hommes de son temps, mais cela me regarde, l'affaire Jésus me regarde, elle doit être tranchée à un moment ou à un autre. Et Barabbas s'est libéré, tout simplement. Il a dû être content, hein, parce que lui, il pensait que c'était le dernier jour de sa vie, et quelqu'un va prendre sa place. Et c'est ça, justement, ce qui est intéressant. Quelqu'un a pris la place de Barabbas. Et si quelqu'un a pris la place d'un homme de cette mauvaise condition, de cette mauvaise qualité, à combien plus forte raison devons-nous insister lorsque nous prêchons l'Évangile que Jésus, s'il a pris la place de Barabbas, cet homme, de ce type d'homme, eh bien combien est-il en effet certainement capacité, et de nous de le croire, de prendre notre place. Non pas que nous valons mieux que Barabbas, non pas qu'il est pire que nous, mais que de toute façon tous les hommes, eh bien, sont des pécheurs et ils ont besoin de se repentir. Alors, il est libéré. Et je me pose la question, quelque part, est-ce que Barabbas a réfléchi que Jésus était mort à sa place ? C'est ça. Est-ce que je peux réfléchir aujourd'hui devant ce message de la passion de Jésus, que Jésus est mort à ma place ? Qu'a-t-il fait ensuite de sa vie, Barabbas ? Parce qu'il était libre, hein, on l'avait absous. On avait déclaré un non-lieu, en quelque sorte, si on peut parler d'une manière juridique. Est-ce qu'il a continué sa vie comme auparavant ? Sa vie de bandit, sa vie de voleur, sa vie de terroriste, parce que c'était un juif probablement, et il devait certainement attaquer les soldats romains pour les éliminer, avec un idéal politique peut-être. Alors, où est-ce que Ou alors, à ce moment-là, eh bien, Jésus a donné sa vie pour tous les coupables. Alors s'il l'a donné pour un homme comme lui, eh bien, il l'a donné pour tous les hommes, meurtriers, menteurs, qu'ils soient ceci, propres, justes, hypocrites, religieux ou non, peu importe. Hein. Jésus, eh bien, nous affirme, là, à travers ce verdict, quelque part, que ce qu'il a donné, il ne l'a pas donné pour lui-même, puisqu'il était saint, mais il l'a donné pour tous les hommes. Et c'est ce que nous dit ce beau chapitre du livre d'Ésaïe au chapitre 53. C'est véritablement, eh bien là, un modèle du genre. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire que ces écrits du prophète sur, eh bien, la passion de Christ. Alors, naturellement, nous pouvons en tirer cette conclusion, et je termine, à défaut d'accepter la grâce, reste le jugement. La priorité de la priorité des priorités pour Dieu, c'est de nous faire grâce, c'est de nous pardonner et de savoir que quelqu'un a payé. Alors on appelle ça l'expiation, on appelle ça la rédemption, on appelle ça la substitution, c'est-à-dire qu'il a pris notre place. Et alors que nous, nous sommes voués à mourir, Jésus est mort pour nous. Alors naturellement, il faut le considérer non pas dans, seulement sur le plan physique, mais c'est sur le plan moral, sur le plan spirituel, parce qu'il ne s'agit plus à ce moment-là, eh bien, de la vie matérielle, de la vie corporelle, de ce que nous sommes en tant qu'hommes, mais de ce que nous sommes dans notre personnalité, dans notre entité profonde, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, qui sont sauvés pour l'éternité. Alors, à défaut d'accepter, je le répète, la grâce reste le jugement. Et nous avons besoin de trouver devant nous, non pas en Dieu un juge, mais tout simplement un sauveur. Et il nous est rappelé, la dernière phrase que je cite, « Eh bien, et le peuple répondit, pour montrer toute son opposition et toute son ignorance, son incrédulité, sa violence, sa rébellion, et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » L'histoire est là pour nous le confirmer. 70 ans, en l'an 70, après tous ces événements, eh bien, une chose s'est passée, c'est que les armées romaines ont investi la Palestine, ont investi Jérusalem, et quand il est question finalement, eh bien, que les Juifs ont prononcé cette imprécation, cette malédiction sur eux-mêmes, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, dans l'année 70, eh bien, avec le général Titus, eh bien, Jérusalem a été incendiée, là, nous pouvons dire, rasée. Il ne restait pas, selon les prophéties anciennes, pas pierre sur pierre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a eu lieu la grande dispersion des Juifs, ce qu'on appelle la diaspora, dans le monde entier, et que finalement, eh bien là, la prononciation de leur malédiction sur eux-mêmes et sur leurs enfants, sur leur race, eh bien, a eu lieu. Et je crois que quand Dieu nous appelle, c'est pour nous bénir, hein, c'est pour nous sauver, c'est pour que nous puissions véritablement recevoir son pardon et sa grâce. Et ça, c'est quelque chose, eh bien, de tellement important. Qu'avons-nous fait à Jésus? Quelle position prenons-nous pour Jésus? Quelle place donnons-nous à Jésus dans notre vie? Eh bien, moi je pense qu'il y a peut-être cette conclusion toute simple, que c'est dans la foi, et que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu parce qu'il est venu nous sauver à travers la personne de Christ. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt, et merci pour votre écoute.